16h de ce 9 septembre présenté par Marie-Françoise Iwolo.
Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Et c'est reparti ce 9 septembre pour 3 trimestres de cours dans les écoles, lycées et collèges de la République. Une rentrée des classes empreinte de résilience pour la communauté éducative de la région de l'extrême nord. Enseignants, encadreurs et élèves ont repris le chemin de l'école, dans les pieds dans l'eau. 765 millions de personnes dans le monde ne savent ni lire ni écrire. La 58e journée internationale de l'alphabétisation, c'est aujourd'hui. Les activités au Cameroun vont durer 48 heures. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État, préside l'ouverture des travaux au Palais des Congrès de Yaoundé, en présence de Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. En sport, éliminatoire de la CAN Maroc 2025, le Cameroun et le Zimbabwe s'affrontent ce mardi à Kampala en Ouganda, déjà victorieux de la Namibie. 1-0 samedi dernier à Garoua. Marc Brice et son groupe ont une séance complète tout à l'heure à 17h en lieu et place de la reconnaissance de l'ère de jeu. Les dernières nouvelles de la tanière, c'est en page du sport du 13h. Et puis, Coupe du Monde féminine U20, Colombie 2024, le Cameroun sera face au Brésil en 8e de finale. L'Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture, UNESCO, organise du 9 au 10 septembre une série d'activités pour marquer l'événement qui a pour thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle de la paix ». C'est dans le cadre des festivités marquant la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, représente le président de la République à l'ouverture des travaux de haut niveau ce matin au Palais des Congrès de Yaoundé en présence de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Retrouvons notre reporter, Laurentine Bocono, en direct du Palais des Congrès de Yaoundé.
Le Cameroun, un exemple de vivre ensemble linguistique ou un terrain d'illustration des risques de belligérance auxquels expose tout refus de cohabitation plurilinguistique et multiculturelle. C'est probablement tout cela à la fois qui justifie le choix du Cameroun, le choix porté sur notre pays pour abriter cette année les festivités marquant la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation en contexte de délocalisation des manifestations dans les pays membres de l'UNESCO. Au nom du chef de l'État Paul Biya, qui le représente à ces festivités, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, a remercié la directrice générale de l'UNESCO pour le soutien multiforme que l'institution qu'elle dirige apporte à l'État du Cameroun. Il a par ailleurs souhaité que la Journée internationale de l'alphabétisation soit un outil d'autonomisation des personnes, des communautés et des sociétés pour ouvrir des portes à la jouissance d'autres droits humains et à de plus grandes libertés. Juste avant le représentant du chef de l'État, Audrey Azoulay a exprimé sa satisfaction de se retrouver pour la deuxième fois au Cameroun, qu'elle présente comme un pays multilingue avec une riche diversité linguistique et culturelle. Elle félicite le Cameroun pour l'introduction des langues maternelles dans les curricula de l'éducation de base. La cérémonie a commencé par la visite de 2 stands d'exposition. Celui de l'UNESCO pour l'éducation TV Academy, qui améliore la préparation des élèves aux différentes épreuves et améliore la performance des enseignants, et le stand Cameroun pour les pratiques d'apprentissage culturel. Tous à l'école sous l'arbre pour apprendre à conjuguer la pratique de plusieurs langues avec la promotion de la paix et la compréhension. Au programme de cette masterclass, les questions liées à l'alphabétisation dans des contextes multilingues afin de parvenir à une paix durable, des solutions possibles à l'amélioration des politiques, des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie, la gouvernance. Sans oublier l'agenda 2030 de l'alphabétisation au Cameroun et en Afrique dans le contexte de l'année de l'éducation de l'Union africaine et au-delà. Palais des Congrès d'Yaoundé, Laurentine Bocono, CRTV.
au nom du chef de l'État Paul Biya qu'il représente à cette cérémonie, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Gouté lance un appel pour que la pratique de la multiplicité des langues cesse d'être un vecteur des conflits, qu'elle soit plutôt un facteur de richesse et un aiguillon pour la paix et la concorde nationale. C'est dans cet extrait de discours sélectionné par Laurentine Bocono.
La journée internationale de l'alphabétisation est l'occasion de promouvoir l'alphabétisation comme outil d'autonomisation des personnes, des communautés et des sociétés, ouvrant les portes à la jouissance d'autres droits humains et à de plus grandes libertés. Il s'agit d'une fondation sur laquelle les individus s'appuient pour acquérir des connaissances, des valeurs et des comportements nécessaires à la culture d'une paix durable fondée sur le respect de l'égalité et de la non-discrimination. Elle contribue, en outre, à l'enracinement de l'état de droit, de la solidarité et de la justice, en vue de l'établissement de relations harmonieuses avec soi-même, avec les autres et avec le monde entier. Elle est donc essentielle dans la perspective de l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 pour créer des sociétés pacifiques, inclusives et durables. C'est le lieu de se réjouir des progrès enregistrés en matière d'alphabétisation, lesquels sont considérables et appréciables. Ainsi, il y a environ 50 ans, près d'un quart des jeunes de la planète manquait de compétences de base en lecture et en écriture, contre moins de 8% en 2021. Cette évolution notable peut être largement attribuée à l'expansion de l'éducation de base au cours des dernières décennies. Distingués invités, mesdames et messieurs, malgré ces avancées, il est important d'observer que des défis restent nombreux. En effet, selon une étude de l'Institut de statistiques de l'UNESCO, entre 2016 et 2021, le taux mondial d'alphabétisation des jeunes et des adultes pour la population âgée de 15 ans et plus n'a augmenté que d'un point de pourcentage, passant de 86 à 87%.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 7 minutes à Yaoundé. Rentrée scolaire, ces jours de démarrage des classes, l'école a repris ce lundi 9 septembre sur l'ensemble du territoire. Des millions d'élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire renouent avec leurs livres, cahiers, surtout le tableau noir. À l'éducation de base et au regard des statistiques de l'année dernière, c'est près de 5 millions d'élèves du primaire, plus de 627 750 élèves de la maternelle et plus de 152 700 enseignants qui doivent être dans les campus scolaires. Un retour en classe marqué en ce premier jour par une ambiance chaleureuse de retrouvailles. Le rappel du règlement intérieur, les règles de civisme et les premières leçons. Ambiance de rentrée à la maternelle et au primaire, c'est dans ce reportage d'Agnès Sylvienne Anzama.
C'est le grand jour. Dans le primaire et la maternelle, l'ambiance est chaleureuse. Accueil, orientation, éveil physique, mental et civique sont au rendez-vous en ce premier jour des classes.
Alors, nous sommes les écoliers modèles, allons-y.
Nous sommes les écoliers modèles.
Mon cœur bien content.
Mon cœur bien content.
Un bravo pour les amis.
À l'école publique d'Odia 2 au quartier Minkana Yaoundé, la directrice Laurentine Marindo est à la manœuvre.
La rentrée est effective. Tout le monde est là, les maîtresses sont là, même la maternelle.
Les tout-petits qui ont répondu à l'appel ce premier jour prennent part au premier rassemblement. La maternelle, les nouveaux inscrits sont en larmes. La séparation avec les parents est difficile, mais les maîtresses maîtrisent la situation.
Bonjour les amis.
J'ai les pleurs, les cajoles.
Autre lieu, même ambiance, au complexe scolaire bilingue adventiste, calme et sérénité règne. Les parents sont présents en compagnie de leur progéniture. La sonnerie résonne avec à la manette le directeur Martin Abose.
Ces élèves-là sont déjà prêts, alors il faut qu'ils se mettent en rang pour recevoir les premières instructions.
Et c'est ainsi que le train de l'année scolaire a quitté la gare après 3 mois de vacances.
Dans les salles de classe, vous venez de le constater, les premiers cours ont été dispensés par les enseignants, décidés à entamer de manière satisfaisante cette année scolaire. Cliché sonore de ces premiers contacts avec les programmes au lycée bilingue des Kounou, dans ce reportage de Coralie Laetitia Imini.
Devant le portail du lycée bilingue des Kounou, pour les élèves, c'est la toute première leçon du jour. Le cours à la conformité vestimentaire.
Quand maman te laisse venir le premier jour, avec la tenue qui s'est déjà déchirée, c'est comment ? Demain, quand tu arrives le soir, tu cherches le fil, tu cours d'abord ici.
Une fois le portail franchi, et après le rassemblement, dans les salles de classe, les élèves ont repris leur place. Cahier ouvert et stylo en main, ils notent les éléments clés du premier contact avec l'enseignant.
Je suis Madame Gong, Janine, enseignante de sciences physiques au lycée bilingue des Kounou. Alors ce matin, pour mon premier cours de physique en première C, nous avons déjà commencé par une prise de contact avec les élèves, suivie d'une évaluation diagnostique et la présentation du programme annuel qui sera déroulé tout au courant de l'année.
Une prise de contact qui pose ainsi les jalons d'un cheminement paisible durant l'année, suscitant l'intérêt des apprenants.
Je suis l'élève Bayhaya René Yvan en classe de première C. Aujourd'hui, nous avons vu nos premiers professeurs de la journée. Que nos professeurs de physique. La dame nous a appris que, premièrement, nous devons être assidus, disciplinés, afin de pouvoir obtenir, bien évidemment, notre examen qui est le probatoire.
Un élan d'enthousiasme palpable de cette rentrée scolaire 2024 dans les lycées, où les élèves semblent prêts à embrasser sereinement l'année scolaire d'ores et déjà lancée.
Pour les prochains 10 jours, la situation climatique dans la région de l'extrême nord sera la même. Les pluies continueront de tomber, ce qui va aggraver déjà la situation qui est préoccupante. L'Observatoire national sur les changements climatiques annonce des inondations et des destructions dans plusieurs secteurs de développement. Cela met à mal les infrastructures scolaires notamment. Lynn René Batongué.
Au regard des bulletins d'alerte de la prochaine décade, il pleuvra encore dans l'extrême nord toute cette semaine jusqu'au 17-18 septembre. Les sols suffisamment engorgés d'eau vont simplement alimenter tout ce que l'on vit déjà comme conséquence de ce côté-là. La situation sera donc plus critique dans les prochains jours dans le Logonéchari, le Mayo-Danaï, bref, dans la plupart des 6 départements qui s'y trouvent. Si ces pluies de septembre ne surprennent pas vraiment, car c'est ainsi chaque année à la même période, il faut relever néanmoins l'intensité cette année, mais aussi l'absence d'action ou de mesures en amont. Au-delà des bulletins d'alerte de l'ONAC et de la Direction nationale de la météorologie qui informe régulièrement, il y a que sur le terrain, un système de prise en charge précoce devrait se mettre dès les premières pluies sans surprendre pour qu'on n'assiste pas aux catastrophes comme celle qui est en train de se dérouler à l'extrême nord où l'on dénombre déjà plusieurs morts, des pertes matérielles importantes et une famine qui se profile à l'horizon.
À Goulfé, dans le Logonéchari, on parle de près de 2000 maisons détruites, des milliers de bêtes emportées et plus de 2000 hectares de champs de céréales dans les eaux. Le maire Barka Mahamat a tenu, malgré tout, malgré les salles de classe inondées, à rendre effective la rentrée scolaire à Goulfé, tout comme la directrice de la petite école primaire publique inclusive de Goulfé 2. Nous l'écoutons.
Madame Yeshi Ali, la rentrée scolaire a été effective ce matin, malgré le manque de personnel. Il y a aussi la pluie qui a fait beaucoup de dégâts. Néanmoins, la rentrée a été effective.
Ici, dans la commune de Goulfé, l'effectivité de la rentrée scolaire est relative. Dans certaines localités, les spectres des inondations et pluies diluviennes ont pesé sur le cours de cette rentrée. Par exemple, à Goulfé, certaines classes ont repris, mais avec un rythme trop lent. Monsieur le sous-préfet et l'inspecteur continue toujours de sonner certaines écoles. D'autres salles de classe ont été déjà libérées. J'espère que cette semaine, les cours pourront reprendre avec un bon élan.
Dans la région du Nord, les établissements scolaires maternels et primaires et secondaires, les premiers cours sont dispensés. Le gouverneur de la région, Jean Abateidi, s'est rendu sur le terrain pour s'assurer de cette effectivité de la rentrée. Il s'est dit satisfait et invite les enseignants à tout mettre en œuvre pour qu'à la fin de l'année, le classement national de la région du Nord aux examens officiels soit une satisfaction pour tous. Voici le reportage de Jean Foumargué.
C'est au pas de course que le gouverneur de la région du Nord, accompagné de son état-major, a visité plusieurs établissements scolaires afin de s'assurer de l'effectivité de la rentrée. Si, dans les maternelles, c'est le concert de pleurs pour les nouveaux et la joie des retrouvailles pour les anciens, dans les établissements d'enseignement secondaire, les premiers cours sont dispensés. Jean Abaté Eddy, gouverneur de la région du Nord.
Le corps enseignant, les élèves et les différents responsables, tous ont répondu présents à cette nouvelle rentrée scolaire.
Le numéro 1 du Nord a saisi l'occasion pour inviter les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes et d'être ponctuels et assidus pour des meilleurs résultats.
Chaque enseignant, avant de dispenser son cours, doit rappeler aux enfants l'importance d'aimer ce pays. Nous devons cultiver ce patriotisme à toute épreuve, qui est le socle véritable de bâtir une nation unie, prospère, en prenant exemple sur un certain nombre de valeurs.
Dans la région du Nord, la communauté éducative, galvanisée par cette descente du gouverneur, affiche fièrement l'ambition de tout mettre en œuvre pour relever le défi de la performance en cette nouvelle année scolaire. Garoua, Jean Foumargué, CRTV.
Plus d'une centaine d'établissements sont envahis par les eaux à Yagoua. Pour allier leur école, les élèves ont emprunté des pirogues. Des véhicules ont été mis à la disposition des autorités pour faciliter la traversée. Ailleurs, les élèves sont recasés à défaut d'aller dans d'autres établissements les plus proches pour suivre les cours. Retrouvons Honoré Mbouaké à Yagoua pour les détails.
185 écoles primaires et 45 lycées et collèges sont impactés par les inondations. En ce jour de rentrée dans le Mayo Danaï, à Yagoua, dans la cité départementale, pirogues et véhicules ont été affrétés pour faciliter la traversée de certains élèves.
Aujourd'hui, c'est la rentrée. Quand j'arrive, je trouve beaucoup d'eau. Ce que je peux faire, c'est monter dans les pirogues comme les autres élèves pour traverser.
Tous les moyens sont mis à profit pour répondre au présent en ce jour de rentrée. Tout comme les élèves, les inondations n'ont pas entamé le moral des enseignants et des chefs d'établissement.
Mais voici, sur la route de l'école, voilà encore l'eau. On cherche à traverser l'eau. On va passer par les pirogues. De l'autre côté, on va encore prendre la moto pour aller à l'école.
Le bataillon d'intervention rapide, la police et la gendarmerie ont été associés pour désengorger les points d'embarquement. Le préfet du Mayo Danaï, Jean-Lazare Ndongo-Ndongo, a supervisé personnellement les opérations.
Nous sommes là pour sécuriser les élèves qui doivent traverser. C'est très important pour nous d'être là pour nous assurer que ce transbordement se fait de manière sécurisée et que les élèves vont effectivement à l'école.
Dans les autres unités administratives, les mêmes dispositions ont été prises pour assurer l'effectivité de la rentrée. Yagoua, Honoré Mbouaké, CRTV.
Dans le sud, le préfet de la ville, Richard Tamkilikeng, s'est rassuré de l'effectivité de la rentrée scolaire en visitant de nombreux établissements. Le film d'un premier jour d'école en zone urbaine et campagne, c'est dans le sud, dans ce reportage de Flavien Zobo.
Dès les premières heures de la matinée, le décor de la reprise des cours a envahi les artères de la ville des Boulevards. Sur les motos, principal mode de transport ici, des conducteurs et leurs clients écoliers de retour. À l'école Our Lady of Resurrection, sise au quartier Kitambon, la joie des retrouvailles et les pleurs de la maternelle sont au rendez-vous.
Aujourd'hui, c'est lundi, tout le monde.
Au lycée classique et moderne, le refrain d'une reprise effective est également entonné. Pascal Bicon, proviseur.
Ils sont encadrés par des professionnels, mais on leur a quand même demandé d'abandonner les mauvaises pratiques que nous connaissons.
En zone rurale, au collège d'enseignement secondaire de Bitili, à l'école primaire de Mvoutedoum, le train a quitté la gare. Les responsables, en se réjouissant de la réalité de ce beau départ, invite les retardataires à presser le pas. Assoué Dimungo et Odiamjo Vincent.
Je me retrouve à 75% le premier jour. Mercredi au plus tard, on aura le plein.
Et certains sont là, d'autres ne sont pas là. La rentrée, c'est la rentrée. Et nous avons commencé. Nous demandons aux parents d'envoyer les enfants à l'école.
Comme de tradition, les autorités de la ville ont visité de nombreux établissements pour porter le message de soutien et de confiance aux élèves et aux encadreurs. Flavien Zobo et Bolovasi RTV.
Vous Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 19 minutes à Yaoundé. Des dénonciations récurrentes parvenues à la Commission nationale anticorruption, en abrégé CONAC, font état de la violation de la réglementation en matière de recrutement des élèves dans des lycées et collèges par certains chefs d'établissement. Parmi les dérives dénoncées, il y a le monnayage du recrutement dans les classes de 6e et de Form 1, en dehors des seuls concours réglementaires. Les montants évoqués sont de 100 000 francs et 80 000 francs pour une place en classe de 6e ou de Form 1 lorsque l'élève n'a pas été reçu au concours d'entrée en 6e. Il ressort aussi que certains chefs d'établissement, sous la pression des différentes recommandations des autorités administratives, politiques et religieuses, procèdent à des recrutements massifs en marge de la réglementation au sein de leurs établissements. Le président de la CONAC rappelle par conséquent que le monnayage du recrutement des élèves est un acte de corruption puni par les articles 134 et 134.1 du Code pénal, tout comme les recommandations des autorités administratives et autres adressées aux chefs d'établissement pour les recrutements des élèves lors des rentrées scolaires constituent des actes de trafic d'influence, infraction assimilée à la corruption et punie par l'article 161 du Code pénal. Il met en garde toutes les personnes qui s'adonneraient à de telles pratiques durant leur rentrée scolaire en cours sur le fait qu'elles s'exposent à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Il encourage enfin les différents acteurs du secteur éducatif à dénoncer toute pratique illicite sur les différentes plateformes de la CONAC. C'est signé le président, révérend docteur Dieudonné Massigams. Et nous voici en sport. Éliminatoire Cannes 2025, c'est demain le match de la deuxième journée du groupe J entre le Zimbabwe et le Cameroun. Pendant ce temps, les Lions indomptables n'ont pas toujours accès au stade qui devrait abriter la rencontre pour la séance de reconnaissance de l'ère de jeu. Le motif, mauvaise programmation. L'Ouganda qui accueille les deux équipes occupe son propre stade aujourd'hui. Les explications sur la situation qui prévaut à Kampala depuis l'arrivée des Lions, c'est avec Charlie Merino-Siliatou, l'envoyé spécial de la CRTV.
À Kampala, les jours se suivent et se ressemblent pour les Lions indomptables. Depuis leur arrivée dimanche dans la ville, pas d'accès aux installations locales pour des entraînements. Une incompréhension totale qui dure depuis 48 heures maintenant entre les officiels de la délégation camerounaise, les responsables de la CAF et la fédération ougandaise. Conséquence, les Lions indomptables ont été retenus tout à l'heure encore à l'entrée du stade national Nelson Mandela qui était censé accueillir l'unique séance de reconnaissance de l'ère de jeu. Même le commissaire du match CAF n'a pas pu décanter la situation. Le stade est inaccessible en raison du match entre l'Ouganda et le Congo qui se dispute cet après-midi même. Au moment de cette correspondance, le bus des Lions indomptables rentre au Sheraton Hotel, son camp de base, situé à une heure de route du stade. Il reste néanmoins une dernière option, revenir s'entraîner ce soir à 22h, heure locale. C'est la seule fenêtre disponible, à défaut de rentrer sur la pelouse demain mardi, sans le moins d'entraînement pour un match officiel. Depuis le stade Nelson Mandela de Kampala, Charlie Merino-Siliatou, CRTV.
Les affiches des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football féminin des moins de 20 ans sont connues. Seul le Cameroun et le Nigeria franchissent l'étape de la phase des groupes. Pour le compte de l'Afrique, le Ghana et le Maroc sont éliminés au premier tour. Le Nigeria croise le Japon, vice-champion du monde en titre, tandis que le Cameroun sera face au Brésil, médaillé de bronze de la dernière Coupe du Monde en 2022 au Costa Rica. Les Lions U20 doivent donc faire preuve de mental et de grande qualité collective pour renverser le Brésil invaincu en 3 sorties en Colombie. Samuel Billon.
Match à haute intensité pour le Cameroun contre le Brésil, un adversaire de gros calibre. La sélection nationale féminine U20 du Brésil se montre redoutable au fil des matchs depuis le début de la Coupe du Monde en cours. 14 buts inscrits en 3 matchs, premier de la poule B, 9 points sur 9. Le Brésil est sans pitié pour ses adversaires, littéralement dominés tour à tour. 9-0 contre les îles Fidji, 3-0 devant la France et 2 buts à 0 face au Canada. C'est donc cette sélection compacte et redoutable qui se dresse sur le chemin du Cameroun. Les Lions U20 font preuve de qualité et de combativité pour leur première participation dans une Coupe du Monde. Menées 0-2, elles accrochent le Mexique 2-0, concèdent une défaite 0-1 face à la Colombie, pays hôte. Les Camerounaises terminent la phase de groupe en beauté par une victoire 2-0 contre l'Australie. La capitaine Naomi Eto'o pèse à elle seule 3 en 2. L'entraîneur Hassan Bala récupère Annie Felicia Enganamben, attaquant de FC Bolova, de retour de blessure, vitesse, percussion, fraîcheur physique et combativité collective. Les Lions rêvent d'un nouvel espoir, battre le Brésil et prolonger leur séjour en Colombie.
C'était la fin hier en Tuy, dans le département du Mbamekim, région du centre, de la 8e édition de la Super Coupe Podbia, tournoi au cours duquel les jeunes réunis dans plusieurs disciplines ont valablement exprimé leur talent devant René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication et élu du département, qui présidait la clôture de cet événement, également en présence des populations venues nombreuses et des autorités locales. Le ministre de la Communication a exprimé sa satisfaction, non sans féliciter les organisateurs de ce tournoi. Il a en outre invité les populations du Mbamekim à se mobiliser derrière le président de la République, Paul Biya, apôtre de la paix, du vivre ensemble et du développement. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Bruno Matip, CRTV Centre.
Mes chers frères et sœurs, mes fils de ce département, je souhaite vous dire en tant que les collaborateurs les plus proches du président Biya, les plus anciens, je voudrais vous dire combien je suis sensible à l'hommage que vous tenez à rendre au président Paul Biya tous les ans. Nous en sommes aujourd'hui à la 8e édition. Je pense que avec cette mobilisation, vous avez tenu encore une fois à dire au président Paul Biya que l'Mbamekim est avec lui, derrière lui, et le sera toujours. Nous avons été impressionnés par ce que nous avons vu. Nous avons vu des jeunes filles qui savent jouer au football. Et je voudrais les féliciter. Ceci est très encourageant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Les femmes entendent être les égales des hommes. Et c'est aussi dans le sport.
La 3e édition du tournoi de vacances RDPC de la Nobel Liga s'est terminée en apothéose ce dimanche. La compétition s'est clôturée par la Super Coupe Paul Biya devant de nombreuses élites de Nobel et les autorités de la ville, au rang desquelles le directeur général du CNCC Auguste Mbappé Penda, invité spécial de cette finale. Une occasion de montrer de la générosité agissante envers la jeunesse scolaire et lancer un appel au chef de l'État Paul Biya. Voici le compte rendu à Douala de Gaël Moudjodedi.
En cette veille de rentrée scolaire, c'est un feu d'artifice de générosité et de joie qui a explosé au stade TSF de Nobel. La finale de la 3e édition de la Super Coupe Paul Biya de la Nobel Liga était un prétexte idéal pour motiver la jeunesse de ce quartier populeux aux habitants de souche modeste. Auguste Mbappé Penda, directeur général du CNCC et invité spécial.
Moi-même, je suis né dans un quartier assez difficile, le quartier Bonadibon. Malgré le fait d'être né dans ce quartier, d'étudier sur les lampadaires à l'époque, parce qu'on n'avait pas d'électricité à la maison, j'ai pu arriver là où je suis. Donc, je suis venu dire aux jeunes de croire dans l'avenir, de travailler fort, parce que si j'ai pu réussir, ils peuvent également réussir.
Si près de 300 enfants ont reçu un soutien pour l'année qui démarre, cette édition de la Nobel Liga baptisée RDPC aura surtout été l'occasion de lancer un appel au président de la République avant tous les autres.
Tout le monde a joué. Nous ne demandons et n'imposons à personne d'aimer le RDPC. Mais tout le monde venu, ceux qui sont détenteurs de la carte d'électeur vont voter utile, vont voter ce qui est bien à voter. Ils vont voter qui? Le sage, c'est pour le bien.
La finale qui opposait AS Sapeur de Mbamehondo à ancien étage Nobel Aoussa a vu la victoire d'ancien étage 1-0. En réalité, la victoire du vivre ensemble dans ce quartier populaire est le paragon. Gaël Moudjondedi, Douala, CRTV.
Ce communiqué du ministre des Finances, au regard du fort engouement observé ces derniers jours dans la souscription des déclarations, porte à la connaissance des contribuables non professionnels soumises à la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques que le délai relatif est prorogé au 1er décembre 2024. Aussi, le ministre des Finances félicite-t-il ceux des nombreux contribuables qui, à date, se sont conformés spontanément à cette obligation fiscale. Le ministre des Finances précise en outre que le non-respect de cette obligation non déclarative ouvre droit à l'application des sanctions prévues par le livre des procédures fiscales. Afin de faciliter les déclarations des contribuables concernés, des équipes de veille ont été mises en place dans leur centre des impôts de rattachement et au sein de la Direction générale des impôts, ainsi qu'un dispositif d'assistance en ligne, notamment un centre d'appel téléphonique au numéro vert gratuit 8200, une plateforme électronique d'assistance Helpdesk accessible sur la page d'accueil du site de la Direction générale des impôts www.support.harmonie2.cm, un numéro de messagerie 691-881-2. Pour les contribuables résidant à l'étranger, le ministre des Finances compte sur le civisme de tous. Et puis, il porte à la connaissance des usagers, des opérateurs d'import-export et du public qu'à compter du 16 septembre 2024, les taxes d'aconnage et la TVA y afférente seront désormais liquidées automatiquement et recouvrées à travers le système informatique douanier CAM6. À cet effet, tous les membres des syndicats des aconniers sont invités à se présenter à la division informatique de la Direction générale des douanes à Douala au plus tard le 2 septembre, munis de toutes les informations utiles pour les configurations d'usage, relevé d'identité bancaire, agrément, carte contribuable. Le ministre des Finances invite donc tous les acteurs désireux d'obtenir de plus amples informations en rapport avec cette réforme à se rapprocher de la division informatique de la Direction générale des douanes située à Bonanjo ou de la Direction générale des impôts à Yaoundé. Le ministre Henri Ayebéaïssi, président exécutif du comité départemental de mobilisation des élites et forces vives de la Lékié, annonce qu'une rencontre d'information élargie portant sur les modalités de contribution et de participation aux obsèques de l'honorable Koaluk est convoquée pour le mardi 10 septembre dès 16h, de 16h à 18h, dans la grande salle du rez-de-chaussée de l'immeuble siège du conseil régional du centre à Yaoundé. Les personnalités, élites et forces vives de la Lékié, ainsi que les amis de la famille de l'honorable Koaluk sont cordialement invités à cette rencontre à laquelle prendra part une délégation des membres de la dite famille. La présence massive des uns et des autres est vivement souhaitée. C'est signé le ministre Henri Ayebéaïssi. Vous écoutez le 13h. À présent, voici le condensé des nouvelles du jour en anglais. C'est avec Drusilla Mokosodjuki.
Good afternoon. Global celebrations to mark the 58th World Literacy Day have gone underway in Yaoundé. The event was opened this morning at the conference center by Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gauthier, representing the Head of State. The ceremony, attended by the Director General of UNESCO, Audrey Azuli, and delegates from over 50 countries, was marked by speeches highlighting the importance of literacy in promoting mutual understanding and peace. The celebration of the 58th World Literacy Day in Yaoundé will also feature a global conference on the award and the award of international literacy prizes. The 2024-2025 school year has opened across the country with pupils in basic education and students in the secondary education sector entering present after 3 months of holiday. Education officials are on the field to ascertain the smooth and effective kickoff of classes in the different towns and villages. In Yaoundé, security officers were stationed at various points to ensure smooth traffic and the security of learners. In the meantime, the chairman of the National Anti-Corruption Commission says the monetization of admissions of students is an act of corruption punished by two articles of the Penal Code. In a press release issued recently, the Reverend Dr. Dieudonné Massigams has warned the education family as well as parents of penalties awaiting such corrupt practices and called on them and the general public to denounce suspected cases of monetization of admissions into educational establishments in Cameroon. And in sports, the Indomitable Lions of Cameroon have just left the Mandela National Stadium in Kampala after they failed to train as expected ahead of tomorrow's game against Zimbabwe. The team was told that the stadium is being prepared for this afternoon's game between Uganda and Congo. To note that the Lions are still to train in the field since they arrived in Uganda because of the management of the loan available and authorized stadium in Uganda. These and more at 3 p.m.
À retenir de cette édition qui s'achève, c'est reparti ce 9 septembre pour 3 trimestres de cours dans les écoles, lycées et collèges de la République. Une rentrée de classe empreinte de résilience pour la communauté éducative de la région de l'extrême nord. 765 millions de personnes dans le monde ne savent ni lire ni écrire. La 58e journée internationale de l'alphabétisation, c'est aujourd'hui. Les activités au Cameroun vont durer 48 heures. Le premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, a présidé l'ouverture des travaux au Palais des Congrès de Yaoundé. C'était en présence de Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO et puis sport. Éliminatoire de la CAN Maroc 2025, le Cameroun et le Zimbabwe s'affrontent demain mardi à Kampala en Ouganda. Déjà victorieux de la Namibie 1-0 samedi dernier à Garoua, Marc Brice et son groupe ont une séance complète à 17h tout à l'heure en lieu et place de la reconnaissance de l'ère de jeu et puis Coupe du Monde féminine U20 Colombie 2024. Le Cameroun sera face au Brésil en 8e de finale. 13h35 à Yaoundé, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer un excellent après-midi.